Alors, je suppose que la plupart d'entre vous, vous allez fêter Noël dans quelques semaines, comme d'ailleurs l'écrasante majorité de nos concitoyens. Et je suppose que vous savez, si vous êtes là aujourd'hui, vous savez qu'en principe, Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus de Nazareth. Et donc, en bons chrétiens que nous sommes, c'est bien Jésus que nous cherchons à mettre à l'honneur en cette période de fête, n'est-ce pas? Ou plutôt, c'est un certain Jésus que nous mettons à l'honneur à Noël. Parce que parmi toutes les cartes de vœux chrétiennes que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer, je doute qu'il y en ait beaucoup avec ce type de verset dessus. Joyeux Noël! Et comme l'a dit Jésus, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvaises comme vous l'êtes? Ou encore, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, bonne fête de fin d'année. La question que je veux soulever ici, c'est la suivante en fait. Est-ce que nous n'avons pas tendance en fait, qui que nous soyons, est-ce que nous n'avons pas tendance à sous-estimer les conséquences qu'implique la foi ou l'absence de foi en Jésus? Est-ce que nous n'avons pas tendance, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, est-ce que nous n'avons pas tendance à ranger soigneusement Jésus sur une étagère, à l'accrocher au mur en quelque sorte, à l'intégrer proprement au décor de notre vie si nous sommes croyants? Il a sa place par ici, vous voyez? Ou bien, si nous ne sommes pas croyants, est-ce que nous n'avons pas tendance tout simplement à intégrer Jésus proprement au décor de notre culture ou de nos connaissances intellectuelles? Oui, on a entendu parler de Jésus, il a sa place par ici, sur cette étagère, dans tel livre, sur tel rayon. Sans mesurer, en fait, combien la personne et l'œuvre de Jésus exigent que nous ayons, en ce qui le concerne, une opinion radicale. Et je veux vous suggérer ceci, c'est que si Jésus n'est pas pour vous, aujourd'hui, un sujet extrêmement sérieux, c'est que vous le connaissez mal. Et je crois que c'est exactement ce que le texte qu'on va lire dans un instant veut nous faire comprendre. C'est un texte qui veut nous faire mesurer les enjeux de notre réponse à la personne et à l'œuvre de Jésus. Et la leçon, elle est tout simplement la suivante, me semble-t-il. La personne et l'œuvre de Jésus appellent un positionnement de notre part dont les conséquences sont extraordinairement importantes. La personne et l'œuvre de Jésus appellent un positionnement de notre part dont les conséquences sont extraordinairement importantes. Et pour nous faire comprendre cela, le texte va nous parler successivement d'une réponse obligée, d'un danger réel, d'une situation délicate et d'une sécurité parfaite. Alors lisons chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, donc chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Alors on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait « N'est-ce pas là, le fils de David ?» Les pharisiens l'ayant appris dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Mais quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole que tu as inspirée, ces textes que tu as inspirés. Nous savons qu'ils sont infaillibles. Nous le reconnaissons et nous voulons nous y soumettre. Seigneur, aide-nous maintenant à comprendre ce que tu veux nous communiquer. Fais ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. La personne et l'œuvre de Jésus, donc, appellent un positionnement de notre part, dont les conséquences sont extraordinairement importantes. Voilà, vous avez retenu l'idée principale, maintenant vous pouvez faire la sieste pendant les prochaines 20 minutes si vous voulez. Mais le texte commence par nous faire comprendre, premièrement, versets 22 à 30, que devant Jésus, on devrait se sentir obligé de se positionner. Ce qui se passe dans ce passage, c'est que Jésus accomplit un miracle, donc, qui suscite deux réactions complètement opposées. La foule, d'un côté, dit que Jésus, c'est forcément, sûrement le Messie qui a été envoyé par Dieu. Tandis que les pharisiens, de leur côté, disent que Jésus est sûrement un imposteur envoyé par le diable. Réaction opposée, vous voyez. Jésus va répondre alors à cette objection des pharisiens en leur montrant que cette idée est complètement illogique, voire absurde, puisque le diable ne s'attaquerait pas à ses propres œuvres. Le diable ne s'attaquerait pas à lui-même. Or, Jésus, depuis le début de son ministère public, lui, il n'a de cesse de guérir les malades et de délivrer les démoniaques. D'après Jésus, donc, dans ce passage, il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de cela. C'est que le royaume de Dieu est bien arrivé. C'est que Jésus est bien le Messie qui est venu pour établir ce royaume. Et il va d'ailleurs le faire en triomphant du mal. Il va faire quelque chose, hein, et c'est ce qu'il sous-entend au verset 29. Il va faire quelque chose pour lier le diable en vue d'étendre son propre règne bienveillant sur toute la terre. Mais ce qu'il faut remarquer surtout dans cette petite interaction, ce petit échange entre Jésus et les pharisiens, c'est que d'abord, personne donc ne met en doute la puissance extraordinaire que Jésus a déployée en faisant ce miracle. Et ensuite, tout le monde dans cette histoire se sent obligé de se positionner par rapport à cette puissance. Même les pharisiens sont obligés dans cette histoire de dire quelque chose, vous avez remarqué, les foules réagissent, ça doit forcément être le Messie, le fils de David. Et puis les pharisiens se retrouvent un peu coincés, eux aussi, se sentent obligés de se positionner, de dire quelque chose par rapport à ce qu'ils viennent de voir. Et la seule objection qui leur reste, les pauvres, c'est que la puissance surnaturelle de Jésus serait une puissance diabolique. C'est tout ce qui leur reste. Leur opposition acharnée à Jésus les conduit à affirmer quelque chose d'absurde. Mais, dans tous les cas, ils ne peuvent pas échapper au fait de devoir dire quelque chose. Ils s'y sentent obligés. Et c'est exactement ça l'objet de ce passage, de cette première partie en tout cas, c'est que devant Jésus, on devrait se sentir obligés, nous aussi, de nous positionner. Et c'est ce que confirme d'ailleurs Jésus par la petite maxime qu'il nous dit au verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » On est obligé de se positionner. Le problème, c'est que bien souvent, on ne se sent pas obligé de se positionner par rapport à Jésus. On est un peu comme un passager du métro qui prend place sur le quai pour attendre la rame qui va l'amener à Bellecour. Vous avez fait ça des centaines de fois. Et ce passager, il est plongé dans la lecture d'un de ces journaux gratuits, vous savez, qu'on distribue dans les stations de métro. Non seulement ça, mais en plus, tout en lisant son journal, il écoute de la musique sur son iPod avec ses écouteurs à fond. Et du coup, il ne prête pas du tout attention au message qui est alors diffusé sur les haut-parleurs de la station et qui dit « Nous informons les passagers qu'un incident technique a entraîné l'interruption de la circulation sur la ligne D. Nous vous invitons donc à rejoindre la navette qui reliera votre station à la place Bellecour avec toutes nos excuses, etc. pour ce désagrément. » Et ce passager sur le quai du métro, c'est peut-être après de longues minutes qu'il va enfin se sentir concerné par le message, peut-être en voyant que finalement la rame, elle n'est pas en train d'arriver, elle n'arrivera pas. Et peut-être en constatant que les passagers qui attendaient à côté de lui commencent à partir les uns après les autres. Et là, il commence à se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui devrait me concerner. Parce qu'il enlève ses écouteurs. Et là, il entend de nouveau le message qui a passé peut-être des dizaines de fois, mais qui passe en boucle. Et là, enfin, il comprend le message et il se sent concerné par ce message. Et de façon un peu similaire, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par Jésus, et ce n'est pas faute de pouvoir savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait. Ce n'est pas faute de pouvoir le savoir. C'est plutôt parce que nous ne prêtons pas vraiment attention à qui est Jésus et à ce qu'il a fait. Et pourtant, ce message qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus, ce message passe en boucle dans les pages de la Bible, le plus grand best-seller de l'histoire, hein. Il passe en boucle, je l'espère, dans la prédication chrétienne, notamment dans la prédication de notre Église. Mais beaucoup de gens restent sur le quai de la gare, le nez plongé dans leurs préoccupations, alors que s'ils écoutaient, s'ils étaient attentifs, ils devraient alors se sentir obligés de bouger. En fait, nous devrions nous sentir tellement concernés par la personne et l'œuvre de Jésus que nous devrions ressentir en fait de la pression. Nous devrions nous sentir sous pression, de la pression qui devrait nous conduire à nous positionner. Et si nous ne sentons pas cette pression, et si vous ne ressentez pas cette pression qui devrait vous conduire à vous positionner par rapport à Jésus et son œuvre, c'est que peut-être que vous n'avez pas bien compris qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et si vous n'avez pas bien compris qui est Jésus, ce qu'il a fait, c'est soit parce qu'on vous l'explique mal, ce qui est possible, soit parce que vous-même, vous ne vous y intéressez pas assez. Et ce que ce passage nous enseigne en tout cas, c'est qu'en étant attentif à Jésus et à ses œuvres, on devrait se retrouver obligé donc de faire un choix décisif, un choix lourd de conséquences. On devrait être obligé de répondre à cette question. Mais qui est Jésus? Qui est ce Jésus? Qui est-il vraiment? L'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, a dit que finalement, tout le monde devrait avoir à choisir entre trois options en ce qui concerne Jésus. Est-il menteur, malade ou maître? Et le théologien Tim Keller rajoute une quatrième option et dit « Jésus est-il un mythe, un menteur, un malade ou le maître ?» Les pharisiens ajoutent même une cinquième option. Mythe, menteur, malade, magicien ou maître? Magicien et menteur, ça ressemble un peu. Mais bref, la question est-ce que vous voyez aujourd'hui que la personne et l'œuvre de Jésus exigent un positionnement de notre part? Ça exige qu'on se positionne. Et même si vous n'êtes pas croyant, est-ce que vous comprenez que si la biographie de Jésus est vraie, il n'y a qu'une de ces options qui est logique. Qu'une seule, en fin de compte, qui est logique, c'est que Jésus est bien maître, le Seigneur, le Messie. Et je ne vous demande pas de le croire pour l'instant, mais seulement de reconnaître que c'est bien la seule option logique si la biographie de Jésus est vraie, si la Bible dit vrai. Et bien sûr, il resterait encore à tirer de cette réponse logique, des conséquences logiques, et c'est ce que la suite du passage nous montre. La deuxième chose, en effet, que le texte veut nous faire comprendre, c'est qu'il est possible, écoutez bien, il est possible de connaître la vérité et d'aller quand même en enfer. Alors avant que ça vous fasse trop peur, regardez bien ce qui se passe dans le texte. Jésus parle ici d'un péché impardonnable. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux péché impardonnable. Un péché impardonnable qui consiste à blasphémer contre l'Esprit, c'est-à-dire dans le contexte à attribuer au diable ce que fait le Saint-Esprit. Et c'est exactement dans le contexte que les pharisiens viennent de faire. Ils ont attribué la puissance de Jésus au diable alors que c'est la puissance de l'Esprit. Versets 24 et 28. Et Jésus semble sous-entendre au verset 33 que les pharisiens savent, au fond, que Jésus fait le bien. Mais ils disent quand même que sa puissance est diabolique. Autrement dit, ils voient que le fruit est bon, mais ils disent que l'arbre est mauvais. Ce qui est parfaitement illogique, comme le souligne Jésus. Ce qui est logique, en revanche, et c'est là que Jésus retourne ce principe contre les pharisiens, ce qui est logique, en revanche, c'est que les pharisiens, eux, ils disent le mal, puisque eux, leur cœur est mauvais, donc ils disent le mal. Jésus est donc en train de souligner deux choses ici. Hein. D'une part, il souligne le fait que les pharisiens ont une connaissance des œuvres de Jésus, ils reconnaissent que Jésus fait le bien, et d'autre part, il souligne la condition de leur cœur aux pharisiens, cette condition qui les pousse à rejeter les œuvres de Jésus, ce qui revient donc à blasphémer contre le Saint-Esprit. On reconnaît que Jésus fait le bien, mais on dit qu'il le fait par la puissance du diable. Contradiction flagrante. On reconnaît que le fruit est bon, mais on dit que l'arbre est mauvais. Blasphème contre le Saint-Esprit. Finalement, le vrai problème, c'est pas tant ce qui sort de la bouche des pharisiens, mais plutôt là d'où ça vient, là d'où vient ce qu'ils disent. C'est-à-dire un cœur mauvais. C'est-à-dire un cœur incrédule et endurci. Et c'est pour cette raison qu'à la fin de cette petite section, Jésus dit que c'est par nos paroles que nous serons soit justifiés, soit condamnés. Parce que ce sont nos paroles qui révèlent la condition de notre cœur. Nos paroles nous justifieront dans la mesure où nos paroles témoignent de notre foi en Dieu, ou bien à l'inverse, elles nous condamneront dans la mesure où elles témoigneront de notre incrédulité et de l'endurcissement de notre cœur. Donc le problème que Jésus souligne ici en parlant du péché impardonnable, le problème qu'il souligne, c'est le fait de connaître la vérité tout en endurcissant son cœur. Vous voyez donc qu'il est possible de connaître la vérité et d'aller quand même en enfer. Parce qu'au lieu de répondre à la vérité par la foi, on lui répondrait par l'incrédulité. Au lieu d'accueillir les œuvres de Jésus qu'il nous présente dans sa parole, par la puissance de l'Esprit, au lieu de les accueillir, ces œuvres, on lui opposerait une fin de non-recevoir. Non merci. Et en fin de compte, ce rejet obstiné de l'œuvre du Saint-Esprit, dit Jésus, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Alors pour comprendre un peu cette idée, imaginez un homme qui serait atteint d'un terrible virus mortel. D'accord ? Mais dans son malheur, il a de la chance parce qu'il habite en France. Et parce qu'en France, on peut l'accueillir dans un hôpital formidablement bien équipé où il est pris en charge par certains des meilleurs médecins de la planète. Un Denis, un Maïlis, etc. Alors on lui propose un traitement rare. Et exclusif et très cher, le seul remède connu pour ce virus, et qui est en plus entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Mais c'est formidable, situation idéale, n'est-ce pas, pour guérir de ce virus mortel. Mais imaginez maintenant que le malade refuse d'être traité parce qu'il a trop peur des effets secondaires. Oh, il sait bien que ses médecins sont compétents, il sait qu'ils font bien leur travail. Mais il faudrait juste qu'il trouve un autre médicament. Celui-là, je ne le veux pas. Non, merci. Et du coup, il refuse poliment d'être soigné, il signe une décharge et il quitte l'hôpital. À votre avis, cet homme, est-ce qu'il va pouvoir guérir? Je ne crois pas. Hein. Et la situation de ce malade qui rejette le seul traitement qui peut le guérir, c'est un peu la situation de la personne dans ce texte qui blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne qui rejette, récuse ou renie la puissance du Saint-Esprit, qui dit « non merci » en face du Saint-Esprit, « non merci ». Une telle personne, dit Jésus, est impardonnable, parce qu'elle rejette précisément la puissance qui peut transformer son cœur, alors même que cette puissance est déployée sous ses yeux. C'est ce qu'on appelle en fait l'apostasie. Je vois, je sais qui est Jésus. « Non merci ». Apostasie. C'est impardonnable. C'est rejeter le seul remède qui peut nous guérir. Or, qui sont les gens aujourd'hui qui sont idéalement placés pour voir Jésus et les œuvres qu'il accomplit par la puissance de son esprit? C'est nous. Ce sont tous les gens qui prennent part à la vie de l'Église chrétienne, à la vie de l'Église où la Bible est enseignée, où l'Évangile est prêché, où les sacrements sont administrés et où des vies sont transformées. Tous les gens qui participent à cela sont idéalement placés, n'est-ce pas, pour voir Jésus et les œuvres qu'il accomplit par la puissance de son esprit. En fait, les gens qui participent à la vie de l'Église sont idéalement placés pour apostasier. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de gens qui ont été une fois éclairés, dit-il. de gens qui ont même reçu la connaissance de la vérité, mais qui chutent quand même irrémédiablement. Il s'agit de gens qui prennent part, visiblement, en surface en tout cas, à la vie de l'Église qui est le corps de Christ, mais dont le cœur n'est pas changé, et des gens qui en fin de compte rejettent la seule puissance capable de changer leur cœur. Alors juste une petite parenthèse, est-ce que vous avez peur d'avoir commis ce péché? Est-ce que vous avez peur d'avoir commis le péché impardonnable? Si oui, ça veut dire que vous avez peur que le Saint-Esprit ne change pas votre cœur. Ce qui voudrait dire que vous avez envie que le Saint-Esprit change votre cœur. Ce qui veut dire que votre cœur, en fait, est déjà changé. Ce qui veut dire que vous n'avez pas commis ce péché. Mais le but de ce passage, c'est pas qu'on se demande si on a commis ou non le péché impardonnable. Non, non, c'est pas du tout le but de ce passage. Le but, c'est plutôt qu'on ait conscience qu'il n'y a pas de salut possible pour ceux qui rejettent délibérément l'œuvre de l'Esprit. Et donc cet avertissement est adressé tout particulièrement à ceux qui, comme les pharisiens, et comme nous, il faut le dire, sont au courant de qui est Jésus et de ce qu'il fait. Ce passage a pour but de nous rendre particulièrement attentifs à qui est Jésus et à ce qu'il fait, et de nous rendre particulièrement sensibles à la façon dont nous accueillons ou non ce message. C'est d'ailleurs ce que confirme la façon dont Jésus va ensuite répondre à une certaine demande des scribes et des pharisiens dans les versets suivants, versets 38 à 45. Et là, la troisième chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que les gens qui connaissent les œuvres de Jésus sont dans une situation délicate. Les gens qui connaissent les œuvres de Jésus sont dans une situation délicate. Alors Jésus vient de parler du danger qui consiste à connaître la vérité et à y répondre par un cœur endurci plutôt que par la foi. Et maintenant, le texte, à partir du verset 38, en rajoute une couche, ou plutôt, ce sont les pharisiens, les scribes et les pharisiens qui en rajoutent eux-mêmes une couche. Ils demandent à Jésus de leur donner un signe. S'il te plaît, fais un signe, fais un miracle, fais quelque chose pour nous prouver que tu es bien le Messie. Mais Jésus, il interprète aussitôt cette demande comme étant parfaitement hypocrite. Un cœur mauvais comme le vôtre demande vraiment, sincèrement, un signe, mon œil. Il en profite néanmoins, Jésus, pour dire qu'il y aura bien un signe qui validera un jour tout son enseignement et toute son œuvre, ce sera sa propre résurrection d'entre les morts. C'est ce qu'il dit au verset 40. Et ensuite, Jésus sous-entend que même ce signe, même sa résurrection d'entre les morts ne suffira pas à convaincre ces gens qu'il appelle cette génération mauvaise. C'est-à-dire ces gens qui savent, mais qui ne croient pas. Et d'ailleurs, Jésus dresse un contraste à ce moment-là entre les Israélites qui ne croient pas et les païens, c'est-à-dire les non-juifs, qui eux croient. C'est-à-dire entre les gens de l'intérieur qui rejettent la grâce que Dieu leur présente et les gens de l'extérieur qui accourent pour entrer au bénéfice de cette grâce. Jésus dresse un contraste entre les deux. Pour le dire encore autrement, il dresse un contraste entre les gens les mieux placés pour croire mais qui ne croient pas et les gens les moins bien placés pour croire et qui croient. Et Jésus dit que le jugement sera plus sévère à l'encontre de ceux qui étaient au courant et qui n'ont pas cru. C'est terrible ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je disais que les gens qui connaissent les œuvres de Jésus sont dans une situation délicate, parce qu'il y a une obligation qui leur incombe en particulier. Si vous êtes au courant, il y a une obligation qui vous incombe, celle de croire. C'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y a une grande responsabilité qui repose sur les épaules de la personne qui détient l'anneau. Détenir l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, c'est une situation délicate, vous voyez, parce que détenir l'anneau, ça présente pas mal d'avantages, mais en même temps, c'est terriblement dangereux. Si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, si vous avez lu les romans, vous savez de quoi je parle. Il vaut mieux l'avoir, cet anneau. Puis en même temps, il vaut mieux pas l'avoir. Il y a cette tension tout au long de l'histoire. Et la question est la suivante, qu'est-ce qu'on va faire de cet anneau? Comment est-ce qu'on va répondre au pouvoir que cet anneau confère à celui qui le détient? Et en y répondant bien à ce pouvoir, celui qui détient l'anneau est susceptible d'être sauvé, et même de sauver le monde. En y répondant mal, par contre, celui qui détient l'anneau est susceptible de précipiter sa propre chute et beaucoup de gens avec lui. Et quand on fait partie de l'Église, quand on prend part à la vie d'une Église chrétienne, quand on est à l'écoute des enseignements de la Bible, on est, mes amis, dans une situation similaire. C'est un peu comme si on nous remettait cet anneau de pouvoir qui nous met dans une situation délicate. C'est déjà une grâce de prendre part à la vie de l'Église. Il en découle toutes sortes de privilèges, mais c'est aussi une obligation qui nous incombe, celle de croire à l'Évangile et de placer toute notre confiance en Jésus. Pour reprendre l'image de Jésus qu'il emploie ici, c'est comme si notre maison était balayée et ornée. C'est déjà une grâce d'appartenir à l'Église, de faire partie de la vie d'une Église chrétienne. La maison est balayée et ornée, prête à recevoir Jésus, notre Sauveur et Maître. Mais si nous n'accueillons pas Jésus, si nous résistons à l'œuvre de l'Esprit, si nous la rejetons même, l'œuvre de l'Esprit, alors nous commettons l'apostasie. Jésus dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et en fait, Jésus ici ne fait que confirmer ce qu'il a dit juste avant concernant le péché impardonnable. Il veut tout simplement que nous nous rendions compte que ce n'est pas du tout anodin de savoir ce que Dieu a fait, de savoir qui est Jésus, de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire. Jésus est Dieu le Fils qui s'est incarné, qui est né d'une vierge, c'est ce qu'on fête à Noël. Il a vécu une vie parfaite, il s'est offert ensuite lui-même en rançon, une rançon d'une valeur infinie, pour payer un prix infini, le prix de notre pardon et de notre salut. Jésus était le seul juste, le seul être humain à avoir vécu une vie parfaitement juste, et c'est lui qui est mort sur la croix pour des injustes. Et surtout, le troisième jour, il est ressuscité, il est sorti victorieux de ce combat contre le mal et contre la mort. Il a prouvé qu'il était bel et bien le Messie, et il nous invite maintenant, le Jésus ressuscité, le Jésus vivant, il nous invite maintenant à entrer au bénéfice de sa victoire, par la foi. Voyez, tous ceux qui sont au courant de ces choses, et maintenant vous l'êtes, sont dans une situation délicate, parce que leur réponse à cette grâce que Dieu leur présente, c'est ce qui change tout à la fin. Ça comporte des conséquences extraordinairement importantes. C'est ce que Jésus nous confirme dans la conclusion de ce passage, où le texte veut nous faire comprendre, quatrièmement et dernièrement, versets 46 à 50, que ceux qui se fient aux promesses de Dieu n'ont absolument rien à craindre. Dans ces quelques versets, le texte dresse un nouveau contraste, un contraste saisissant toujours cette fois entre les gens incrédules et par conséquent réprouvés par Dieu, dont il a été question depuis le début de ce passage, ces gens que les pharisiens incarnent dans cette histoire, n'est-ce pas ? Un contraste donc entre eux et, de l'autre côté, les vrais disciples de Jésus. Les premiers, les méchants si vous voulez, sont hypocrites, endurcis, impardonnables, passibles d'un jugement particulièrement sévère, tandis que les autres, les gentils, si j'ose dire, sont appelés frères, sœurs et mères de Jésus. Les vrais disciples de Jésus sont même plus frères, sœurs et mères de Jésus que ses propres frères et mères biologiques. C'est vraiment ça que dit le texte. Il y a sa vraie mère qui est là et ses vrais frères qui sont là, qui veulent lui parler. Il dit, mais qui sont ma mère et mes frères ? Et il étend sa main sur ses disciples, il dit, voilà. Mon frère, ma sœur et ma mère. Ce qui caractérise ces disciples, c'est qu'ils se fient entièrement à la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils conditionnent leur vie aux promesses de Dieu. Ça, c'est la vraie confiance, ça, c'est la vraie foi. Et ce que le texte nous fait comprendre, c'est que ceux qui sont dans cette situation-là sont en parfaite sécurité, étant comptés dans la famille même de Jésus, le Fils éternel de Dieu. Ceux qui se fient aux promesses de Dieu n'ont donc absolument rien à craindre. Alors, ça vous ferait quoi, vous, si quelqu'un de très important vous disait qu'il vous aimait comme si vous étiez son frère, ou sa sœur, ou sa mère ? Imaginez que Jonas vous dise, Jonas de notre église qui est là, imaginez que Jonas vous dise, toi tu es pour moi comme un frère. Oh, ça vous ferait plaisir qu'il vous dise ça. Je pense que vous vous sentiriez le bienvenu chez lui. N'est-ce pas ? Imaginez que Gérard Collomb, le maire de Lyon, vous dise « Toi, je t'aime encore plus que je n'aime ma maman. » Je pense que vous vous sentiriez en sécurité, peut-être pas remarqué, mais plutôt bien accueilli dans les couloirs de l'hôtel de ville hein, de Lyon, n'est-ce pas ? Parce que c'est fort que quelqu'un d'important vous dise ça. C'est sûr qu'avec certaines personnes, on s'en méfierait, mais avec Jésus, il n'y a pas de raison de se méfier. Il est bon, il est bienveillant. Et en effet, ici, dans ce texte, c'est Jésus, la seconde personne de la Trinité, Dieu éternel, tout-puissant, qui déclare au sujet de tout croyant qui place sa confiance en Dieu et qui se fie à ses promesses, telles qu'elles nous sont communiquées dans sa sainte parole, la Bible. Ce Jésus qui déclare au sujet des croyants, « Tu es mon frère, ma sœur, ma mère. » Waouh. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du chapitre 11, de ce récit, donc si vous étiez là pour les prédications précédentes, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début du chapitre 11, il y a une succession de reproches formulés à l'encontre des gens incrédules, surtout des gens qui sont issus du peuple de Dieu, c'est-à-dire des gens qui connaissent au moins intellectuellement le plan de Dieu et ses promesses de grâce. Mais depuis le début du chapitre 11, donc on est vraiment dans une partie du récit de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, où il y a cette accumulation, cette succession de reproches, mais depuis le début, à chaque fois que Jésus a fait ses reproches, à chaque fois qu'il a mis sévèrement en garde son auditoire contre l'incrédulité, contre l'endurcissement du cœur, contre l'hypocrisie, en fin de compte, contre la perdition, à chaque fois, le texte a toujours, toujours systématiquement ajouté, juste après, une invitation miséricordieuse. Il a été question de Jésus qui offre le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. N'est-ce pas ? Il a été question de Jésus qui ne brise pas le roseau froissé et qui sauve ceux qui espèrent en son nom. Et maintenant, le voilà qui appelle frères, sœurs et mères ceux qui s'attachent à lui par la foi. Le texte veut tout simplement que nous considérions ces deux destinations possibles pour l'homme. Le texte creuse le fossé, en fait. Depuis le début du chapitre 11, hein, en particulier, le texte creuse le fossé entre la situation de ceux qui sont attachés à Jésus et de ceux qui rejettent Jésus. Et il est particulièrement important pour les gens qui sont au courant de qui est Jésus et de ce qu'il a fait, c'est-à-dire vous et moi, il est particulièrement important pour nous de prendre la mesure de cet écart radical, de la profondeur de ce fossé. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux, il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de territoire neutre, il n'y a pas de Suisse entre la vraie foi, entre la vraie foi et la non-foi. Non, c'est pas possible. Deux destinations possibles, uniquement un fossé profond entre les deux. Bien sûr, nous pouvons prier pour ceux qui ne sont pas au courant. Nous pouvons annoncer l'évangile à ceux du dehors ou à ceux qui sont sur le quai, qui ne se sentent pas encore très concernés. Mais vous au moins, vous qui êtes là aujourd'hui, vous au moins, vous savez. Vous au moins, vous savez. Au moins aujourd'hui, après cette prédication, vous savez. Or, je le disais en introduction, on a tendance à sous-estimer les conséquences qu'implique la foi ou la non-foi en Jésus. Que nous soyons chrétiens ou non, en fait, nous avons tendance à ranger soigneusement Jésus sur une étagère, à l'accrocher au mur, à l'intégrer proprement au décor de notre vie, ou bien au décor de notre culture ou de nos connaissances intellectuelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut constater, notamment pendant la période des fêtes de Noël. Alors que ce texte, au contraire, veut nous faire prendre conscience que la personne et l'œuvre de Jésus exigent que nous ayons en ce qui le concerne une opinion radicale. Une opinion radicale, pas juste un avis, un humble avis. Une opinion radicale. Si Jésus n'est pas pour vous un sujet extrêmement sérieux, c'est que vous le connaissez mal. Et c'est soit parce que je me suis mal exprimé aujourd'hui que vous le connaissez mal, ou parce que vous n'avez pas bien écouté. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. En tout cas, la personne et l'œuvre de Jésus appellent un positionnement de notre part dont les conséquences sont extrêmement, extraordinairement même, importantes. C'était la leçon de ce texte. Et si cette leçon est vraie, alors vous devez prendre position par rapport à Jésus. Et la seule position logique, si la Bible dit vrai, la seule position logique, c'est la position salutaire de la foi. De la foi. C'est-à-dire d'une confiance entière en Dieu et d'une vie radicalement conditionnée par ses promesses. Amen. Je vous invite à la prière. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, que nous avons tendance à sous-estimer les implications de la foi en toi et en même temps de l'absence de foi en toi. Nous avons tendance à sous-estimer la profondeur du fossé qui existe entre ces deux destinations possibles pour l'homme. Seigneur, s'il te plaît, augmente en nous la conscience de la gravité de ce que tu as fait pour nous par la venue et l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à être encore plus reconnaissants. Aide-nous à nous appuyer de tout notre poids sur lui et sur toutes tes promesses de grâce. Aide-nous aussi à être fidèles dans la proclamation autour de nous de cet évangile, cette bonne nouvelle. Aide-nous à avoir du zèle, à avoir du courage, de la hardiesse pour parler de toi autour de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.